une toune de circonstance que vous venez d'entendre, la toune du Rougeard Football qui entame sa 25e saison ce dimanche au Stade TELUS contre le Verrières de l'Université de Sherbrooke. On en parle à l'instant avec le collègue Will, spécialiste football pour le FM 93. Salut Will!
Salut mon Dan!
Will, 25 saisons, évidemment la première question que j'ai en tête, t'as pas suivi l'évolution complète du programme parce que t'as seulement 26 ans. Le Rougeard Football, est-ce que c'est ancré à Québec, évidemment. Il y a un tailgate impressionnant. Je vais être là dimanche, je vais aller voir les auditeurs au tailgate. Est-ce que c'est encore l'équipe qui fait des jaloux partout au Canada?
Oh, assurément. Assurément, même partout au Québec. Puis là, okay. On peut répandre ça maintenant partout au Canada.
Okay.
Clairement, c'est le programme d'Alabama aux États-Unis mené par Nick Saban, version canadienne.
Ah, OK.
À plus petite échelle.
OK, je comprends. Okay.
Selon moi, le Rouge et Or, Glenn Constantin, Nick Saban, Alabama, on peut ramener ça dans la même phrase. La domination, la structure, le coaching staff, les entraîneurs, le système de jeu, tout part de là. Puis le succès du Rouge et Or, selon moi, se résume à trois choses depuis 95, oui, mais depuis la première Coupe Vanier en 99. Oui, les joueurs, les gars excessivement talentueux, on développe des bons joueurs de football au Québec, c'est de plus en plus le cas. Des gars maintenant qui ont une chance de percer la NFL comme Mathieu Betts, Anthony Auclair et compagnie. Mais la structure du Rouge et Or, en partant par Monsieur Tanguay en haut, jusqu'au terrain, Gilles Lépine à l'époque, les entraîneurs, le recrutement, c'est ce qui fait la force du Rouge et Or. À chaque année, on veut gagner à nouveau. Ça me fait beaucoup penser également à la mentalité des Pats de la Nouvelle-Angleterre. C'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a.
Okay.
On en veut toujours plus. Et à chaque année, on recommence pour but d'aller gagner le gros trophée, le Super Bowl pour les Pats et la Coupe Vanier pour le Rouge et Or.
OK. C'est 10 ou 11 Coupe Vanier pour le Rouge et Or?
Exactement. 10, me semble.
10. Ouais. OK. C'est quoi les failles? Là, tu viens de faire l'éloge du Rouge et Or. Si on voulait être, mettons, 25 secondes, négatif un peu, qu'est-ce qui est... un peu moyen dans le programme Rouge et Or Football?
Ben, quand on devient la grosse bébite à abattre, ouais. La grosse machine que tout le monde, oui, prend comme modèle, mais qui veut également te détrôner.
OK.
Fait qu'à un moment donné, quand t'arrives en haut, tu peux seulement redescendre.
OK.
Puis, sérieusement, moi, ce qui me fascine chez le Rouge et Or, chez Glenn Constantin et tout ça, c'est la régularité puis la constance de ce programme-là. Gagner 2-3 ans, avoir un bon noyau, tu prends un joueur de première ouais. année, tu les développes pendant ouais. 5 ans, puis ce groupe-là gagne lorsqu'ils sont à leur 4e année, à leur 5e année, tu gagnes des Coupes Vanier avec eux. Oui, c'est beau, t'as développé un noyau, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la régularité puis la constance. Puis, c'est pas facile quand t'es toujours en haut, et même dans les dernières années, c'est un peu moins le cas, Dan, depuis 2-3 ans, mais quand tu te rappelles quand les Carabins avaient gagné deux oui. coupes dans Dartmouth consécutives.
Oui.
Puis c'était les années où j'avais beaucoup de mes amis qui jouaient encore dans les programmes collégiaux puis qui allaient se rendre universitaires. Bref, le Rouge et Or était devenu un peu la deuxième équipe au niveau du recrutement.
OK.
Les Carabins les avaient clairement dépassés.
OK.
Puis on s'est...
Grâce aux deux victoires de la Coupe d'Andemore?
Oui.
OK.
Oui, grâce okay. à Danny Machocha aussi.
Oui.
Puis grâce aussi un peu à une genre d'écœurite aiguë.
Ah.
Tu sais, je suis pas sûr que c'est tous les joueurs de la NFL qui veulent jouer pour les Pats de la Nouvelle-Angleterre.
Okay.
Parce que t'arrives dans une structure pas évidente.
Ouais.
Tu dois embarquer dans le moule ou sinon, ben, on te débarque de l'équipe. C'est un peu ça aussi le Rouge et Or. C'est extrêmement positif pour la plupart des joueurs parce
ouais.
que t'embarques dans une structure et même si tu n'es pas le joueur le plus talentueux, tu peux exprimer ton talent parce que le système de jeu fait, il va ressortir le meilleur de toi-même. Mais à un moment donné, quand t'es en haut, tu sais, le bon vieux jeu du roi de la montagne, là, quand c'est toi qui es en haut de la montagne, ouais. m'emmener, tu peux juste redescendre. Mais quand même, il n'y en a pas beaucoup de failles chez le Rouge et Or depuis 25 ans. Il faut vraiment gratter pour en trouver. Et ce qui me fascine, je te le répète encore, c'est vraiment la constance de ce programme-là.
OK. Dimanche, c'est le Vert et Or qui est en visite. Ça serait très surprenant que Sherbrooke l'emporte. Ils n'ont jamais battu le Rouge et Or dans leur histoire. Et je lisais la semaine dernière une statistique sur l'expérience des joueurs de Sherbrooke cette année. Ils ont le 2/3 de leur formation qui sont des joueurs de première ou deuxième année. Donc, une équipe très jeune. Déjà, quand ils étaient expérimentés, ils perdaient contre Laval. Je m'attends pas à ce qu'ils gagnent dimanche au Stade TELUS.
Non, moi non plus.
Comme c'est la 25e année du Rouge et Or, on essaie de trouver l'équipe d'étoiles de tous les temps. Je pense même qu'on demande l'aide du public pour faire ça.
Oui.
Moi, ce qui m'a, j'allais dire impressionné, ce qui me fascine, je suis pas certain que je suis impressionné tant que ça, mais ce qui me fascine, c'est qu'on n'ait jamais retiré un chandail dans l'organisation du Rouge et Or.
C'est vrai, bon point.
C'est un concept d'équipe. On veut pas faire passer le joueur avant le logo du Rouge et Or, mais il y a des joueurs quand même qui ont été marquants.
Le Rouge et Or, c'est une famille, puis c'est pas l'individu qui passe en avant du programme. Mm-hmm. Et même ça, c'est un petit point que j'ai remarqué, mais maintenant, on met le nom des joueurs du Rouge et Or dans le dos, le nom de famille. Là,
oui, c'était pas le cas à l'époque de Mathieu
Bertrand. C'était pas le cas à l'époque. Ouais. Et puis, je sais que c'est pas avec tous les chandails qu'on le fait également. Je pense que c'est avec le rouge qu'on le fait. Ouais. Il me semble que le noir, il y a pas les noms de famille des joueurs à l'arrière. Ouais. Puis c'est vraiment anodin là, comme point. Mais par contre, un peu comme les Yankees de New York. Hein,
c'est vrai.
Il n'y a pas non plus les noms de famille en arrière des chandails. Puis, c'est un concept d'équipe. Et Glenn Constantin l'a tellement prouvé depuis qu'il est à la barre de cette équipe-là. Il y a des joueurs qui ont été libérés, qui ont été sacrés dehors du programme. Des joueurs excessivement talentueux, mais qui n'avaient pas une bonne attitude et qui ne voulaient pas entrer dans le concept d'équipe. Le Rouge et Or, ça reste un concept d'équipe. Et peu importe qui. T'as fait quoi avant? Mm-hmm. T'as gagné les joueurs le plus utile au niveau collégial. T'as été le meilleur joueur collégial au Québec. On s'en fout. Si tu veux jouer pour nous, t'embarques dans le concept d'équipe.
T'as rencontré Glenn. Qu'est-ce qu'il y a à nous raconter, Will?
Écoute, les gars sont prêts. Ils ont hâte d'embarquer sur le terrain. Puis surtout, il n'y a pas eu de match pré-saison pour le Rouge et Or cette année.
Ça.
Exact. La semaine dernière, ben, il y a eu un match intra-équipe. Ouais. C'est pas une vraie rencontre, on s'entend. Même si un match pré-saison, c'est pas une vraie rencontre, c'est le fun de se pratiquer contre une autre formation. Et la plupart du temps, c'était une formation même de l'Ontario ou des États-Unis. Donc, c'était le fun de jouer contre une équipe différente qu'on ne voit pas durant l'année. Donc, les gars ont hâte de jouer. C'est la même chose pour les entraîneurs. Donc, on a parlé avec Glenn Constantin hier lors du point de presse en vue du premier match. Je lui ai demandé s'il voyait ça comme un défi ou s'il était un peu inquiet d'avoir un nouveau carrière, d'avoir une toute nouvelle ligne défensive, plusieurs vétérans qui ont quitté également, et si également il sent la pression de répéter la saison parfaite et la Coupe Vanier avec une superbe année qu'a connue le Rouge et Or l'année dernière, la barre est haute cette année. Est-ce qu'il sent la pression? On écoute Glenn Constantin.
Ben, je ne suis pas inquiet, mais j'ai des appréhensions sur notre place, si on regarde notre équipe, l'après Mathieu Bertrand, l'après Benoît Gros et compagnie, on a mis tout le temps des défensives vraiment, vraiment solides. Je pense qu'on a une bonne défensive, on va savoir un peu plus dans les jours à suivre que 2004, après Mathieu. Si on regarde la défensive que je vois en 2004, ils ont tous eu un essai professionnel. Tous. C'est la Coupe Vanier, tu dois à William Leclerc. William, tu sais, joue à l'intérieur de tes moyens. Essaye pas de gagner la game tout seul. Puis, une très bonne défensive. Mais souvent, on a gagné 7-1. Puis, c'était 3-1 vraiment longtemps dans la game. Donc, ça, c'était plus différent. On n'a pas les mêmes. Peut-être aussi les règles aussi solides de la défensive. Moi, je pense qu'on a une bonne défensive. On va savoir dans les prochains jours et semaines comment on va être comme défensive. Pour nous, c'est, je ne sens pas de pression. C'est nos aspirations. Je pense que c'est notre but pour nous. C'est la Coupe Baltimore et que demain, la porte d'entrée. Donc, pour nous, c'est d'aspirer à la Coupe Baltimore. Je pense que ça nous donne 10 bonnes semaines de progression comme équipe. Et quand on est rendu à la Coupe Baltimore, bien, tout espoir est permis après ça.
Tu sais, Will, la preuve qu'un entraîneur reste plusieurs années, c'est qu'il est capable de nous dire dans un extrait comme on vient d'entendre, l'après Mathieu Bertrand, l'après Benoît Groulx. Les entraîneurs dans le hockey junior, là, ils peuvent pas dire l'après David Dernais puis l'après Maxime Comtois.
Non, c'est plus rare.
C'est plus lui le coach 2-3 ans après.
C'est vrai.
C'est la preuve que Glenn est là depuis longtemps.
Ouais.
Je comprends très bien son point. Il dit, on a déjà vécu des situations où on a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Bon, on s'est toujours ressaisi de ça. Et je vois pas pourquoi cette année, ça changerait. Peux-tu rappeler, avant qu'on parle de NFL, Will, la façon que le public qui nous écoute actuellement a de peut-être voter pour l'équipe de rêve des 25 ans?
Ben, il y en a des bons joueurs qui sont passés avec le Rouge et Or au courant des 25 dernières années. Alors, superbe idée de l'organisation du Rouge et Or de réaliser l'équipe étoile des 25 ans du Rouge et Or. Alors, rendez-vous sur le site internet du Rouge et Or. On peut déjà voter pour les porteurs de ballon.
Okay.
Donc, on va décider, je pense que ça dure une semaine, c'est à partir de maintenant jusqu'au prochain match. Pendant une semaine, on va voter pour les deux porteurs de ballon qui méritent d'avoir leur place sur l'équipe étoile du Rouge et Or.
Moi, j'aimais Pierre-Luc Yao. Mais c'est probablement pas lui qui va gagner.
Il y en a eu des bons, des porteurs de
ballon. Je pense que Sébastien Lévesque a peut-être des meilleurs
Sébastien
chiffres que lui.
Sébastien Lévesque, Pierre-Luc Yao a été bon en maudit. Il y a Hieronimo Huerta Flores qui a été vraiment bon également. Il y en a eu des bons porteurs de ballon. Pascal Lechard aussi.
On peut voter seulement pour cette position-là.
Exactement. Okay. Et là, lors de la saison entière, à chaque semaine, il y aura une position différente où on pourra voter. Puis je vois déjà des positions comme la ligne offensive, la ligne défensive, corps arrière.
Oui.
Sérieusement,
ça va plus tard.
Ben, on a l'embarras du choix, mais ça va être difficile de choisir qui aura sa place sur l'équipe étoile.
OK, parfait. Avant de te laisser en 40 secondes, je veux que tu m'expliques pourquoi hier, à Winnipeg, le match en concours entre les Raiders et les Packers, ça a été un flop. Parce qu'au-delà de la victoire de 22-21 des Raiders, Winnipeg, finalement, ça n'a pas été le fun.
Non. Ah, quel désastre dernier soir. Ben écoute, c'est un match en concours entre les Raiders et les Packers, deux des organisations les plus populaires dans le monde du football. Tu sais, deux organisations prestigieuses. Là. On est loin des Lions et des Texans, mettons.
Ouais, okay.
Mais peu importe, c'est un match d'NFL au Canada. C'est gros, c'est le fun. C'est au stade des Blue Bombers de Winnipeg. Et là, comme tu sais, ben un terrain de les Canadiens de football, c'est 110 verges.
Ouais.
Alors là, pour la tenue de ce match, puisque dans la NFL, les terrains, c'est 100 verges, on avait déjà arrangé le terrain pour que ce soit un terrain de 100 verges. Mais bon, les poteaux dans la zone des buts, dans la Ligue canadienne de football, est en plein milieu de la zone des buts. On a bien sûr enlevé les poteaux, mais là, ça crée un énorme trou au milieu de la zone des buts. On a mis un petit « et » surtout, la NFL craignait les blessures pour leurs joueurs. Par contre, Dan, la NFL avait approuvé le terrain deux jours avant. Puis là, c'est 30 minutes avant le match que les deux équipes, les Raiders et les Packers, se rendent compte « Ouais, il y a un trou dans le milieu de la zone des buts. Me semble qu'on ne devrait pas jouer avec ça. » Donc, on a décidé de raccourcir le terrain à 80 verges et la zone des buts se retrouvait à la ligne de 10 jusqu'à la vraie ligne de la zone des buts. Vous allez pouvoir voir les photos circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais Dan, on reçoit un match de la NFL au Canada. Aaron Rodgers vient peut-être pour une première fois au Canada.
Peut-être pour la seule fois.
Peut-être pour la seule fois même. Il est accueilli à Winnipeg.
Ouais.
Dans un terrain qui est même pas conforme à un match hors concours de la NFL. C'est désastreux, puis c'est dommage parce que je pense que le Canada puis les fans de foot, j'ai l'impression que la NFL ne reviendra peut-être pas l'année prochaine ou dans un avenir très rapproché. Mais Dan, je termine là-dessus. Si on jouait le même football partout, Canada et États-Unis, le terrain, il aurait déjà été correct pour accueillir des clubs de la NFL. C'est dommage parce que je pense que dans le Canada anglais, dans le Rock, le Rest of Canada, les gens sont moins fans de NFL qu'on l'est dans l'Est du Canada. À Montréal ou à Toronto, ça aurait été plein. Et hier, il y avait 15-20 000 personnes, puis il y avait plus d'ambiance au Capital hier soir qu'à Winnipeg.
Ouais, c'est ça.
C'est dommage, mais c'est ça.
OK, très bon résumé. Gros merci, Will. Bon week-end à toi.
Merci à toi, Dan.
Je vous rappelle, les auditeurs, que je serai là dimanche au Stade TELUS pour jaser avec vous pendant le tailgate. Match d'ouverture d'une 25e saison pour le Rouge et Or Football.